VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition du mardi 8 septembre 2015, à la une ce soir.
Regain de violence au Burundi, 3 personnes ont été tuées hier à Bujumbura.
Selon le porte-parole de la police, Pierre Gahungu, porte-parole du parti Union pour la paix et la démocratie, a été tué par plusieurs balles, car 6 douilles ont été trouvées sur l'endroit du crime.
Drame dans le Haut-Katanga, 13 creuseurs trouvent la mort dans un éboulement.
Retour ce soir sur le procès de l'ancien dictateur tchadien Hissène Habré au Sénégal.
On ne peut pas faire un procès en laissant Idriss Déby de côté. On ne pouvait pas faire un procès sans identifier tous les acteurs qui sont du reste identifiables. Depuis la conception du procès, on est passé à côté.
On écoutera l'avocat sénégalais Daouda K.
La CPI rejette la demande de libération provisoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo.
Paris commence des vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie, dont une partie est contrôlée par le groupe État islamique.
Nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports, mais tout de suite, le journal.
Regain de violence au Burundi, 3 personnes ont été tuées hier à Bujumbura, dont le porte-parole du parti Union pour la paix et la démocratie, Pierre Gahungu. Sa femme affirme que c'est un assassinat politique. Reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kourondiza.
Selon le porte-parole de la police, Pierre Gahungu, porte-parole du parti Union pour la paix et la démocratie, rentrait chez lui vers 22h dans le quartier de Guiocha au nord de la capitale quand des hommes armés ont tiré sur lui dans sa voiture. Il est mort sur le champ. Pierre Gahungu a été tué par plusieurs balles car 6 douilles ont été trouvées sur l'endroit du crime. La femme du défunt a indiqué à la presse que son mari a été assassiné pour des raisons politiques. Cet assassinat d'un membre important du parti UPD intervient après celui du président du même parti, Zed Ferouzi, en mai de cette année. Zed Ferouzi était un des leaders de l'opposition qui contestait contre le troisième mandat du président burundais. Il avait été assassiné lui aussi devant sa maison par un commando qui n'est toujours pas identifié. Le président du parti UPD, Chovino Mugwengezo, a indiqué que le pouvoir de Bujumbura a un plan pour anéantir une fois pour toutes le parti UPD et tous ceux qui sont hostiles au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Notons aussi que 2 cadavres ont été découverts à Kamenge et Chibitoke au nord de la capitale, 2 quartiers qui jugent que le troisième mandat du président burundais est anticonstitutionnel. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, 13 creuseurs ont trouvé la mort dans un éboulement survenu dans la carrière de Mabaya, dans le Haut-Katanga. Les précisions de Lucille Hamon.
L'éboulement est survenu lundi matin, entre 5h et 6h. Les mineurs ont été ensevelis dans les puits de la carrière de Mabaya, où un gisement de cobalt a été récemment découvert. D'après une ONG locale, 30 creuseurs ont été tués dans 5 éboulements en 2 semaines. L'ONG a réussi à extraire 13 corps des décombres et secourir quelques survivants. D'après les creuseurs, la proximité des puits espacés de seulement quelques centimètres serait la cause des accidents. Les autorités du Katanga ont donc décidé d'interdire sur ce site la présence des femmes, des enfants, des étrangers ainsi que des hommes en uniforme autres que la police.
Laurent Gbagbo restera en prison à La Haye jusqu'au début du procès prévu pour le 10 novembre. Les juges de la Cour pénale internationale ont rejeté aujourd'hui la demande de libération provisoire de l'ancien président ivoirien. On fait le point avec Eddy Sango.
La décision a été rendue aujourd'hui par les juges de la CPI. Les avocats de Laurent Gbagbo, âgé de 70 ans, demandaient sa libération provisoire en raison de son état de santé. Mais l'argument n'a pas été pris en compte. L'ancien président ivoirien est accusé d'avoir plongé son pays dans la guerre civile en s'accrochant au pouvoir à l'issue de l'élection présidentielle de 2010. Transféré fin 2011 à La Haye, Laurent Gbagbo doit répondre des 4 chefs d'accusation des crimes contre l'humanité. Son procès avait été reporté en janvier. La CPI avait décidé de juger l'ancien président ivoirien en même temps que Charles Blé Goudé, ancien chef des jeunes patriotes. Tous deux sont poursuivis pour leur rôle présumé dans la crise post-électorale qui avait fait plus de 3000 morts en 5 mois.
Hissène Habré était le cerveau et l'animateur de la répression sous son régime. C'est ce qui ressort de l'acte d'accusation à l'encontre de l'ex-président tchadien. L'ordonnance, lue devant le tribunal spécial africain qui le juge à Dakar, exposait notamment les spoliations et tortures infligées aux détenus. Un sujet sur lequel nous reviendrons en seconde partie d'émission.
5 djihadistes présumés arrêtés au Mali. D'après le ministère de la Défense, ils sont soupçonnés d'avoir participé à des attaques et d'avoir menacé des journalistes. Parmi Parmi eux, on retrouve les trois cerveaux présumés des récents attentats contre la mission de l'ONU au Mali, dans la région de Bamako. L'un d'entre eux serait d'origine ivoirienne et un autre d'origine burkinabé. Les arrestations ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Une perquisition effectuée au domicile d'un d'entre eux a permis de découvrir un important lot d'armes de guerre.
Dans le nord-est du Nigeria, l'armée interdit l'usage des chevaux dans l'état de Borno pour tenter de mettre un terme aux attaques du groupe islamiste Boko Haram utilisant ces animaux. C'est ce qu'a indiqué un de ses porte-parole à l'AFP.
Éboulement dans l'ouest de la Guinée, 7 personnes ont été tuées et 12 blessées après un glissement de terrain dans la nuit de dimanche à lundi. Catastrophe provoquée par de fortes pluies et des ponts, des habitations et des plantations ont été détruits, apprend-on du gouvernement. Le village de Kolonkola a été complètement rasé, déplorent les autorités.
Élection guinéenne, la haute autorité de la communication interdit la retransmission en direct des meetings et manifestations pendant la campagne par les médias publics et privés. Elle interdit également la diffusion des résultats à partir de la fermeture du dernier bureau de vote jusqu'à la proclamation des résultats provisoires par la CENI. Une réunion des patrons des médias était prévue pour 17h.
Et la menace terroriste pèse sur les intérêts américains en Afrique du Sud. Tel est l'avertissement lancé par l'ambassade des États-Unis. Des extrémistes pourraient viser des installations gouvernementales américaines et d'autres installations pouvant être associées aux intérêts économiques des États-Unis. Peut-on lire sur le site internet de l'ambassade américaine à Pretoria.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crise migratoire en Europe. Paris a envoyé des représentants à Munich, en Allemagne, pour tenter de convaincre 1 millier de réfugiés de venir en France. Les premiers départs étaient prévus dès ce soir. Tatiana Mosso.
Ce mardi soir, une première centaine de personnes devraient être hébergées dans des centres en région parisienne de façon temporaire. La veille, le président François Hollande avait annoncé qu'au nom du principe de solidarité, il était prêt à accueillir dans les prochaines semaines plusieurs centaines, voire 1 millier de réfugiés récemment arrivés en Allemagne. Il s'agit de soulager Berlin, qui prévoit l'arrivée de 800 000 demandeurs d'asile en 2015. Les Syriens et les Irakiens, qui fuient la guerre et les exactions du groupe État islamique, se dirigent majoritairement vers l'Allemagne, où une importante diaspora est présente et où le chômage est faible. La Suède, autre pays d'accueil, est traditionnellement ouverte aux réfugiés. Les Érythréens, qui tentent d'échapper à une circonscription à vie, cherchent de leur côté davantage à rallier la Grande-Bretagne, notamment pour des raisons linguistiques. La France, avec cette aide, souhaite amener certains migrants à envisager un parcours d'asile dans ce pays. Pour cela, nous leur montrons qu'il y a une volonté de les accueillir en France et qu'en Allemagne, ils risquent d'être noyés dans la masse, déclarent les autorités françaises.
Et si vous voulez voir des photos de ces migrants, visitez voaafrique.com où Eddy Isango a posté une intéressante galerie photo sur leur périple de la Hongrie à l'Allemagne.
La France étant à la Syrie, sa lutte contre le groupe État islamique. En effet, l'armée française limitait jusqu'à présent ses opérations en Irak, craignant qu'une action en Syrie n'aide le régime de Bachar al-Assad. Les premiers vols de reconnaissance annoncés lundi par le président François Hollande ont eu lieu ce mardi. Précurseur d'éventuelles frappes, ces vols signalent un changement de stratégie face à Daesh. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a affirmé ce matin qu'une transition politique sans Assad reste le meilleur espoir pour la fin de la guerre en Syrie.
Intervention de la Turquie sur le sol irakien après les récentes attaques des militants du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Ankara a décidé de retourner en Irak 4 ans après une incursion similaire. Dimanche, 16 soldats turcs sont morts dans le sud-est du pays. Une nouvelle attaque des Kurdes a fait 14 morts ce mardi. Repliés dans les montagnes du nord de l'Irak, les forces du PKK ont subi de multiples frappes aériennes et ont fait près de 100 morts parmi les militants, selon les sources militaires citées par l'agence France-Presse.
Enlèvement à Bagdad du vice-ministre irakien de la justice. Des inconnus habillés en noir l'ont kidnappé dans une région à majorité chiite où les milices armées ont une grande influence. Selon un colonel de police cité par l'AFP, son chauffeur qui a tenté de s'interposer a été blessé par balle.
Le chef de l'Église catholique romaine vient d'annoncer des changements radicaux quant à l'annulation d'un mariage. Fini le processus compliqué et onéreux, le pape François accorde aux évêques l'autorisation de décider eux-mêmes si une demande d'annulation est valide, au lieu d'attendre le verdict d'un tribunal diocésain. La plupart des cas pourraient ainsi trouver une réponse dans les 45 jours, a déclaré un conseiller papal. Selon un expert du Vatican, ces changements sont les plus importants depuis le milieu du XVIIIe siècle. Rappelons que le pape François arrive aux États-Unis dans à peu près deux semaines. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Claire Morin-Gibourg.
Le cabinet de conseil américain Ethic Kearney a publié son rapport annuel sur la distribution en Afrique, en prenant en compte plusieurs critères comme l'attractivité, la saturation du marché ou encore les risques politiques. Le Gabon prend la première place de ce classement grâce au nouveau 80 000 m² du grand marché de Libreville qui doit être achevé d'ici à la fin de l'année. Hormis le Rwanda qui chute en 7e position, tous les autres pays du classement sont anglophones. Les pluies provoquées par El Niño vont faire monter le prix du café cultivé en Afrique. Selon nos confrères de Slate Afrique, avec le retour du phénomène cyclique El Niño, les climatologues s'attendent à des pluies torrentielles en Afrique de l'Est, notamment en Ouganda et au Kenya, grands producteurs de café. D'autres denrées comme le soja, la canne à sucre, les bananes et le cacao pourraient également voir leur prix augmenter. La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a appelé mardi la Tunisie à poursuivre son vaste chantier de réformes, tout en saluant la résilience d'une économie qui fait face à de nombreuses difficultés depuis la révolution de 2011. La situation s'est aggravée avec les attentats de mars et juin dernier qui ont fait 60 morts, dont 59 touristes, et qui ont durement affecté le secteur touristique.
Et voilà pour la Minute Éco. Merci Claire.
Plein feu sur les stades, c'est la page sport avec Jacques Aristide. Salut Jacques.
Bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Les clubs engagés en Ligue des Champions et en Europa League vont donner 1 € par billet vendu lors de leur première rencontre européenne pour venir en aide aux réfugiés.
C'est ce qu'a annoncé l'Association européenne des clubs de football, l'ECA, qui vient de réélire l'Allemand Karl-Heinz Rummenigge pour 2 ans à sa tête. Cette décision prise à l'unanimité fait suite à une initiative du FC Porto, a ajouté le patron du Bayern Munich. Le football doit prendre sa part de responsabilité. Les clubs doivent apporter leur contribution pour aider les réfugiés. Un problème grave et sérieux, a-t-il dit. Ce sont 80 clubs qui y participeront, alors que les 140 autres membres qui ne prennent pas part aux coupes européennes peuvent également contribuer à ce programme.
Jacques, revenons au président élu de l'ECA, Karl-Heinz Rummenigge, qui affirme que Platini sera un bon président de la FIFA quand il sera élu.
Oui, cela quelques mois de l'élection à la présidence de la FIFA qui doit trouver un successeur à Sepp Blatter, l'Allemand Rummenigge, d'ajouter que l'ECA a eu de bonnes relations dans le passé avec l'UEFA et surtout avec Platini, car il ne faut pas oublier, dit-il, que lorsque l'ECA a été créé, Michel Platini a été l'un des cofondateurs.
Football en Afrique, le Sénégal dans le viseur de la Namibie.
La Fédération namibienne envisage de faire appel à la Confédération africaine de football pour trancher sur l'admissibilité ou non de 2 des 18 joueurs du Sénégal lors du match qui a opposé les deux pays samedi dernier. Rencontre comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2017 et qui s'est soldée par la victoire des Lions indomptables 2-0 face aux Namibiens.
Football toujours, un joueur veut quitter Monaco pour devenir imam, c'est ça ?
Oui, Yaruba Sissako, international français sous contrat Monaco, envisage d'intégrer une équipe dans un pays de culture islamique. Un proche du latéral droit de 20 ans a déclaré au journal Le Parisien que Sissako veut devenir imam. Il souhaite ainsi quitter la principauté de Monaco. Les dirigeants monégasques avaient entamé des négociations avec le club turc de Galatasaray Spor Kulübü, basé à Istanbul, sans que rien n'aboutisse.
Un mot sur le tennis, Jacques. Le Suisse Roger Federer, 3e joueur assuré de participer au Masters de fin de saison après sa qualification pour les quarts de finale de l'US Open.
Federer rejoint le numéro 1 mondial à Novak Djokovic et Andy Murray, qui avaient déjà empoché leur billet pour le rendez-vous. À 34 ans, Federer verra sa 14e participation consécutive au Masters qu'il a remporté à 6 reprises.
Voilà pour les sports. Merci Jacques Aristide.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin, Gabi Dorsil et Morgane Guériec en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Morgane, le Sénégal.
Reprise à Dakar du procès de M. Hissène Habré devant les chambres africaines extraordinaires. Hier, l'ancien président tchadien a été amené de force. Il refuse de se défendre, récuse ce tribunal spécial et rejette tout contact avec ses trois avocats qui ont été commis d'office. Et quels sont les handicaps de ce procès ? Idriss Fall, adjoint à Dakar, maître Daoudaka, avocat sénégalais.
Premier problème. On ne peut pas faire un procès en laissant Idriss Déby de côté. On ne pouvait pas faire un procès sans identifier tous les acteurs qui sont du reste identifiables. Depuis la conception du procès, on est passé à côté. C'est comme si les bailleurs de ce procès, les ONG qui s'agitent autour de ce procès, n'avaient besoin que de la tête de Hissène Habré. Ce qui ne ressemble pas à une justice, mais plutôt à une sorte de vengeance.
D'autant que Idriss Déby Itno était le chef militaire pendant ce qu'on a appelé le septembre noir au Tchad.
Oui, justement, c'est pour cette raison que je dis, mais Idriss Déby fait partie de ceux qui ont tout fait pour que ce procès ait lieu pendant qu'il est encore en Idriss. Idriss Déby a envoyé deux émissaires à Dakar pour se faire blanchir dans la maison de la presse au Sénégal. S'il n'avait rien à se reprocher, il n'aurait pas besoin de toute cette agitation. Il est clair que Idriss Déby devait être considéré du moins comme étant un complice actif. Parce qu'on n'a jamais vu Habré tuer, on n'a jamais vu Habré torturer, mais il y avait tout un système, il y avait toute une chaîne, et que tous les acteurs de cette chaîne devaient être interpellés au même titre que Hissène Habré.
Autre difficulté, les avocats de M. Habré ont presque jeté l'éponge, on a commis des avocats d'office.
Il faut décrier la façon dont Habré est actuellement traité, parce qu'il a été violenté, il a été obligé de comparaître à la barre, alors que la loi permet au président de passer outre la présence d'Habré et continuer son procès en entendant tous les témoins qui ont été cités dans cette affaire et en se contentant des éléments de preuve dont ils disposent. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a un problème parce que simplement, le statut des chambres africaines permet à Habré de se défendre lui-même. Il n'a même pas besoin d'avocat. Et aujourd'hui, on est en train de forcer en lui imposant des avocats dont il ne reconnaît pas. Même sur le plan de la déontologie, ces avocats commis ne devaient pas accepter d'assurer sa défense. L'autre handicap, c'est de n'avoir pas créé des règles de procédure qui sont appropriées à un procès international. C'est ce qui est fait au niveau de la CPI, c'est ce qui est fait au niveau des tribunaux ad hoc créés par l'ONU. Mais au Sénégal, on s'est empressé de le juger sans de prendre en compte tous les droits de la défense qui sont prévus dans le cadre de ces procès-là.
Et tout ceci se fait sous forte présence médiatique, bien sûr.
C'est un procès qui est médiatisé parce qu'il faut rassurer, il faut montrer qu'on donne l'impression qu'on est en train de juger au nom du peuple africain, alors que ce n'est pas le cas. C'est un procès que l'Afrique n'a pas conçu. C'est un procès qui a été organisé sur demande des Occidentaux et avec les moyens des Occidentaux et avec un appui considérable du président Déby parce qu'il veut se faire blanchir, il veut se couvrir, il veut prendre les devants pour que demain peut-être il n'est plus en exercice, qu'il puisse dire que cette affaire a déjà été jugée, etc. etc.
Maître Daoudaka, avocat sénégalais.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la reprise mouvementée du procès d'Hissène Habré au Sénégal. L'ex-président tchadien est jugé pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et de torture. Quels en sont les enjeux ? Le procès d'Habré, le premier d'un ex-dirigeant africain dans un autre pays du continent, servira-t-il d'exemple ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Suite du 14e congrès forestier à Durban en Afrique du Sud, organisé tous les 4 ans par la FAO, des progrès ont été réalisés. Selon le dernier rapport de l'agence onusienne, la déforestation a ralenti grâce à de nouvelles plantations. C'est justement l'activité principale du fonds Moringa qui investit dans des projets agroforestiers durables. Claire Morin-Gibourg a joint à Durban le cofondateur du fonds Moringa, Clément Cheneau.
Le congrès forestier mondial est un peu l'événement majeur de la filière. Il a lieu tous les 4 ans. le dernier était en Argentine, et il rassemble un peu tous les acteurs importants, à la fois les acteurs publics, gouvernementaux, toutes les grandes ONG, mais aussi le secteur privé, les industriels de la filière, des investisseurs comme nous. Et puis donc cette année, c'est à Durban, donc en Afrique. Donc il y a aussi beaucoup d'acteurs africains présents. Donc pour nous, c'est l'occasion de rencontrer beaucoup de monde et de trouver de bons projets dans lesquels nous pourrions investir.
Parce que vous êtes un fonds qui aide en fait les entrepreneurs. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
On est un fonds d'impact dédié à l'agroforesterie. C'est-à-dire qu'à la fois, on investit dans des projets qui sont rentables, mais aussi qui préservent l'environnement et qui apportent des bénéfices significatifs aux populations locales. Donc on investit en Amérique latine et en Afrique subsaharienne. Donc en effet, on cherche de bons entrepreneurs africains qu'on va pouvoir supporter pour développer ces projets agroforestiers ensemble.
Et vous lancez une facilité d'assistance technique pour aider justement ces entrepreneurs, mais à développer donc des projets bien sûr forestiers durables.
Voilà, donc demain nous organisons un événement pour lancer cette facilité d'assistance technique. C'est en fait un partenariat public-privé entre donc le fonds Moringa, mais aussi des banques publiques de coopération. Donc nous allons lancer cela avec l'Agence française de développement demain. Et cette facilité d'assistance technique a pour but principal d'aider, de renforcer les capacités de ces entrepreneurs africains pour qu'ils aient accès à des financements comme ceux du fonds Moringa.
Clément Cheneau, cofondateur du fonds Moringa.
Le laboratoire français Sanofi Pasteur a annoncé que le sérum Favafrique, traitement anti-venin de référence, ne sera plus en circulation après 2016 parce que sa production a été arrêtée. Mauvaise nouvelle selon Médecins Sans Frontières. Anastasie Toudièche a joint Julien Potet de MSF.
Parce que c'est un traitement des morsures de serpents en Afrique qui a montré son efficacité dans différents endroits d'Afrique pour les principales espèces de venin qui causent des envenimations sévères sur le continent africain, en tout cas en Afrique subsaharienne. Donc c'est un bon produit et donc son arrêt était très préoccupant.
Comment fonctionne un sérum anti-venin dans le corps ?
Donc le sérum anti-venimeux, il est administré en général par voie intraveineuse et il est constitué d'anticorps qui permettent de neutraliser les principales toxines et les principaux enzymes du venin qui sont en circulation.
Et un sérum anti-venin peut agir au bout de combien de temps ?
Pour certaines espèces pour lesquelles la progression de la maladie est très rapide, parce que les venins contiennent des toxines qui sont extrêmement rapides en termes d'activité, il faut parfois l'administrer au plus tard une ou deux heures après la morsure. Donc le plus tôt on agit, dans les quelques heures qui suivent la morsure, le plus de chances on a que le sérum puisse agir efficacement.
Julien Potet, combien ça coûte un sérum anti-venin ?
Ça coûte entre 40 dollars par ampoule jusqu'à 100-120 dollars par ampoule pour les produits les plus chers. En général, pour neutraliser une morsure vraiment bien, il faut une dose initiale de 2 ampoules si possible. Mais vous voyez que pour les populations les plus pauvres, notamment les fermiers et les paysans qui sont souvent mordus dans les pays en développement, ce coût peut être exorbitant s'il n'y a pas un subventionnement et un appui pour accéder au produit.
L'arrêt de ce sérum, est-ce que ça n'est pas l'occasion d'explorer de nouvelles pistes, l'accompagnement par exemple des tradis praticiens qui sont les plus proches de ces fermiers que vous décrivez ?
Alors d'abord, il y a des alternatives. Il y a d'autres traitements anti-venimeux, d'autres sérums anti-venimeux qui sont disponibles sur le marché africain. Il existe deux types de produits. Il existe des produits qui ciblent un faible nombre d'espèces, plus faible que l'ensemble des espèces couvertes par le Favafrique. Donc ces produits-là sont des bonnes alternatives dans certaines sous-régions de l'Afrique subsaharienne. Il existe d'autres produits qui ont à peu près le même profil que le Favafrique, qui couvrent beaucoup d'espèces. Mais pour ces produits-là, aujourd'hui, les tests qui ont été faits sur ces produits sont insuffisants pour avoir des preuves vraiment formelles qu'ils peuvent être aussi bons que le Favafrique.
Que recommande MSF ?
Ce qu'on recommande d'abord, c'est au ministère de la Santé de ces pays-là, oui. Et aussi aux bailleurs de fonds internationaux, de subventionner l'accès aux antivenins. C'est un produit qui sauve des vies. Il est impératif d'avoir un mécanisme de subventionnement pour que les populations payent très peu ou pas du tout le coût de ce traitement. Et il faut que les populations locales soient bien informées de la présence et la distribution des antivenins dans les différents hôpitaux de la région.
Julien Potet, de Médecins Sans Frontières, au micro d'Anastasie Tudièche.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
L'avenir que nous voulons commence avec l'alphabet, d'après Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alphabétisation, dont le thème cette année est « Alphabétisation et société durable ». L'événement marque le 50e anniversaire du Congrès mondial pour l'élimination de l'analphabétisme. Qu'en est-il sur le terrain ? Nathalie Barge a joint un instituteur à Léo, dans le sud du Burkina Faso, Sawadogo Sayuba.
Actuellement, le problème d'alphabétisation, c'est vraiment un problème dans les pays comme le nôtre. Plus de 75% de la population est analphabète. Donc, quand on parle d'alphabétisation, je crois que c'est une bonne chose puisque ça pourrait résoudre pas mal de problèmes. Bon, les gens n'arrivent pas le plus souvent à lire les programmes politiques. Souvent aussi, bon, vous savez que nous sommes un pays très agricole, donc souvent les techniques agricoles, souvent le protocole nous vient d'ailleurs et quand on n'arrive pas à transcrire cela, ça pose pas mal de problèmes. Je crois que si la majorité de la population est alphabétisée, je pense qu'on peut amorcer le train du développement. Pour moi, c'est une stratégie de développement.
75% des personnes qui sont analphabètes, c'est réellement le chiffre encore au Burkina Faso ?
Ce taux-là peut-être date d'un peu plus de 3 ans, mais je crois que malgré les efforts qui sont faits, ça ne descend pas autour de 70 à 75%. Hein.
Mais alors, comment vous expliquez cela, justement, hein, par rapport à ce que vous venez de dire, tous les efforts qui sont entrepris jusqu'ici ?
Bon, le taux, je pense qu'il y a d'abord le problème de moyens, parce qu'il faut reconnaître que bon, nous n'avons pas toujours assez de moyens pour mettre en pratique nos politiques. Bon, le taux d'échec est très élevé. Et il y a aussi que, bon, 40 ans passés, il y avait beaucoup de localités qui n'avaient pas d'école. Donc, je peux dire que des localités vraiment où ils n'avaient pas la possibilité d'être alphabétisés. Donc, après un certain âge, ces gens-là n'ont plus le courage d'apprendre. Donc, ça rend très difficile le processus d'alphabétisation. Donc, ceux-là, vraiment, n'ont pas eu la chance d'aller à l'école.
Vous enseignez à des jeunes élèves hein, de 10-13 ans, mais est-ce que vous participez à des programmes pour permettre aux populations, justement aux adultes, d'apprendre à lire et à écrire ?
Oui, nous participons souvent à des programmes. Je crois qu'actuellement, même notre ministère, c'est un ministère, bon, on dit ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, ça veut dire qu'on prend en compte l'alphabétisation. Voilà, il y a des structures qui sont mises en place, des promoteurs qui créent des centres d'alphabétisation pour des adultes. Nous avons certains de nos collègues qui initient des formations à l'intention bon, de ceux qui n'ont pas pu avoir la chance d'aller à l'école, c'est-à-dire le cours du soir à partir de 18h jusqu'à 20h. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école peuvent venir pour apprendre à lire et à écrire. On a des collègues qui initient ces centres-là. Et nous sommes actuellement en pleine saison pluvieuse au Burkina, donc il y a beaucoup d'activités qui sont suspendues, surtout les activités scolaires, mais qui reprennent tout juste après la saison pluvieuse. Ces gens-là ont souvent peut-être 6 mois comme ça pour apprendre à lire et à écrire.
Sawadogo Sayuba, instituteur à Léo au Burkina Faso.
Salut les amis, Roger Moumtou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
I've got fire for a heart, I'm not scared of the dark, you've never seen it look so easy. I got a river for a soul, and baby you're a boat, baby you're my only reason. If I didn't have you there would be nothing left, the shell of a man that could never be his best. If I didn't have you would never see the sun, you taught me.
One Direction, et le titre c'est Drag Me Down, pour mettre fin à cette édition.
No one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me. All my life, you stood by me. When no one else was ever behind me. Drag me down. Nobody, nobody, nobody can drag me down. Nobody, nobody, nobody can drag me down.
C'est la fin de cette édition. En régie, nous avions Michel Joseph au micro, Morgane Guerriec et chez Robin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.